Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, justement, la Biélorussie au risque d'affrontement. Les partisans d'Alexandre Loukachenko sont appelés à manifester ce dimanche. Précision d'Éric Biegala. Donald Trump qui prépare une riposte après avoir essuyé un revers au Conseil de sécurité des Nations Unies quant à la prolongation de l'embargo sur les armes iraniennes. Explication de Nabila Hamel. Enfin, des représentants du spectacle vivant aux arrêts en raison de la crise sanitaire stupéfaits par la dérogation accordée par le préfet de Vendée, la direction du Puy du Fou, site qui a accueilli hier soir 9000 spectateurs. Confronté à la constance avec laquelle ses opposants se mobilisent, le président biélorusse, réélu il y a une semaine à l'issue d'un scrutin opaque, a appelé ses soutiens à battre le pavé, non sans qualifier les manifestations qui lui sont hostiles de complot soutenu par l'étranger. La candidate de l'opposition, réfugiée en Lituanie, Svetlana Tikhanovskaya, a elle baptisé ce dimanche « Marche pour la liberté ». Bonjour Éric Biegala.
Bonjour Mathieu.
Éric, les conditions sont manifestement réunies pour que les cortèges des uns se heurtent au défilé des autres.
Oui, durant la plus grande partie de la matinée, on a pu voir sur les réseaux sociaux et les comptes de messagerie cryptés, genre Telegram ou Signal, des images de convois de dizaines de bus se dirigeant vers la capitale, convoyant des centaines de personnes pour une manifestation de soutien à Loukachenko dans le centre de la capitale. Un train spécial a même, semble-t-il, été affrété pour convoyer ses soutiens au président sortant depuis Brest, sur la frontière polonaise, jusqu'à Minsk. Des manifestants enrôlés, manifestement recrutés chez les fonctionnaires ou dans les entreprises, les usines ou les grandes fermes d'État. On a même vu une colonne de tracteurs arriver sur la place de la Victoire à Minsk et qui participent plus ou moins volontairement ou de façon plus ou moins convaincue à la manifestation. Certains groupes, très uniformes, uniquement constitués d'hommes entre 25 et 35 ans, athlétiques, tous habillés de la même façon, jeans, baskets, t-shirts, casquettes et masques, font immanquablement penser à des soldats ou des policiers en civil. Quant aux drapeaux qu'ils brandissent, ce sont ceux de l'officielle République biélorusse. Russes, rouge et vert, quelques drapeaux russes également. Personne en tout cas ne porte l'étendard rouge et blanc, le drapeau de la Biélorussie historique, brandi par les opposants à Loukachenko depuis une semaine. Le rassemblement a débuté il y a une heure et demie et d'ici une heure, c'est une autre manifestation qui est convoquée, celle de l'opposition à Loukachenko. Là, les drapeaux rouge et blanc seront à n'en pas douter omniprésents. L'organisation des deux rassemblements est encore un peu floue. Normalement, aucun cortège, aucune déambulation n'est prévue ni pour l'un ni pour l'autre et les deux manifestations pourraient parfaitement s'ignorer mutuellement. Mais si elles devaient se rencontrer, le risque en effet n'est pas mince d'un affrontement généralisé dans le centre de Minsk cet après-midi.
Merci à vous Éric Biegala. Le 8 mai 2018, Donald Trump annonçait le retrait des États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, déclenchant de vives protestations et de Téhéran et de ses alliés. Le texte aborde bien sûr la levée de certaines sanctions, dont l'embargo sur les armes. Deux ans plus tard, les États-Unis œuvrent à la prolongation de cet embargo. Washington, qui vient d'essuyer à cet égard un camouflet au Conseil de sécurité des Nations Unies. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour.
Nabila, la nuit dernière, Donald Trump a promis une riposte.
Il n'est pas question d'en rester là. C'est ainsi que l'on pourrait interpréter l'attitude de Donald Trump après le rejet d'une résolution américaine proposant de prolonger l'embargo sur les armes à l'Iran. Si Téhéran a très vite considéré qu'il s'agissait là d'une humiliation pour Washington, le président américain prend à témoin les membres du Conseil de sécurité et avertit « Vous verrez la semaine prochaine ». L'idée lancée la nuit dernière par le président américain et son secrétaire d'État Mike Pompeo serait de faire usage de ce que l'on appelle un snapback, un mécanisme nouveau qui est une sorte de droit de veto à l'envers. Selon les détracteurs de la démarche américaine, l'administration Trump voudrait surtout parvenir à la réintroduction de sanctions à l'encontre de Téhéran avant l'élection présidentielle de novembre. D'ici là, l'exercice diplomatique risque d'être un peu plus corsé à l'ONU, car s'il y a eu deux votes pour la prolongation de l'embargo sur les armes à l'Iran, celui des États-Unis, auteur du texte, et celui de la République dominicaine, plusieurs pays a priori favorables à cette idée, à l'instar des Européens, ont refusé de jouer cette fois le jeu américain, d'où le rejet de la résolution. L'embargo sur les armes à l'Iran arrive à expiration le 18 octobre. Et bien que Donald Trump ait retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, la diplomatie américaine menace donc d'invoquer son statut de pays signataire, de pays participant à ce même texte pour imposer unilatéralement le rétablissement des sanctions de l'ONU levées en échange de l'engagement iranien à ne pas se doter de l'arme nucléaire. La crainte affichée par certains diplomates est qu'une telle manœuvre pourrait pousser l'Iran à claquer définitivement la porte de l'accord nucléaire.
Merci à vous, Nabila Hamel. Des émissaires américains participent aujourd'hui à Doha, Qatar, à la cérémonie d'ouverture des pourparlers de paix entre les talibans et le gouvernement afghan. Premiers échanges inter-afghans à partir de demain. Un dernier verrou a sauté dimanche dernier avec les premières libérations des 400 derniers détenus d'une liste de 5000 noms, détenus parmi lesquels des talibans condamnés pour avoir assassiné des ressortissants français, ce qui scandalise Guillaume Denoy de Saint-Marc, directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme.
C'est une nouvelle qui nous choque en tant que victimes du terrorisme. Cette libération est vue comme vraiment un affront d'une part et un danger supplémentaire. C'est horrible pour des victimes de voir que ceux qui les ont frappés sont à nouveau dans la nature, peuvent revenir à l'endroit où vous vivez et peuvent cohabiter. De façon générale, là, on déroge aux principes fondamentaux qui est que justice avant tout, puisque pour des raisons de réelle politique, il va y avoir la libération de personnes qui ont du sang sur les mains et qui sont loin d'avoir abandonné leurs illusions. Et c'est une insulte qu'il y a des victimes françaises qui sont concernées, qui sont méprisées en tant que victimes civiles de guerre. Tout ça n'augure pas un retour à la paix et un retour à la sérénité en Afghanistan. Il ne s'agit pas d'un esprit de vengeance, mais justement, c'est quand il n'y a pas de justice que l'esprit de vengeance peut revenir.
Des propos recueillis par Margot Siffer. Les autorités maritimes françaises ne cessent de voler au secours de réfugiés qui tentent de gagner la Grande-Bretagne à bord d'embarcations de fortune. 31 personnes, dont 3 enfants et un nourrisson, secourus hier dans la Manche. La France a enregistré 3310 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, chiffre au plus haut depuis la fin du confinement. L'exécutif multiplie réprimandes, mise en garde. La ministre du Travail proposera sous peu aux partenaires sociaux le port du masque obligatoire en entreprise. Cependant, que le gouvernement agite le spectre d'une deuxième vague épidémique, 9000 personnes goûtent au spectacle du Puy du Fou grâce à une dérogation accordée par le préfet de Vendée qui juge que dans son département, la circulation du virus est pour l'instant faible. Bonjour Pauline Joss.
Bonjour Mathieu.
Pauline, les professionnels du spectacle privés d'activité depuis des mois sont tout simplement outrés par cette décision.
Les rassemblements de plus de 5000 personnes devaient à l'origine être à nouveau possibles en septembre. Finalement, le Premier ministre Jean Castex a repoussé la levée de cette interdiction à la fin octobre, tout en laissant une marge de manœuvre aux préfets pour autoriser ou non des événements selon la circulation du coronavirus dans leur département. Dans le cas du Puy du Fou, le préfet a jugé que la situation sanitaire en Vendée n'était pas suffisamment préoccupante pour annuler ou limiter davantage la jauge du spectacle. Il a aussi considéré que les infrastructures du parc suffisaient à protéger les spectateurs. Malika Seguino est la directrice générale du PRODIS, le syndicat national du spectacle musical et de variété. Pour elle, le message envoyé par les autorités brouille les lignes.
Ça crée même la confusion au sein même du secteur, mais également à l'égard des spectateurs, puisque on nous indique que le virus circule à nouveau de façon forte et que c'est pour cela qu'il faut proroger les interdictions de rassemblement. Et dans le même temps, on déroge pour un spectacle qui est quand même de plus de 9000 personnes.
Pourquoi, Pauline, pourquoi les professionnels du spectacle n'ont-ils pas profité justement de cette dérogation à l'échelle du département ?
Eh bien, pour les spectacles de musique actuelle notamment, il y a un autre problème qui se pose. L'événement peut aussi être interdit quand il est censé accueillir du public debout. Dans ces petites salles de spectacle, si le public est assis en respectant la distanciation physique, alors la jauge ne permettra pas aux organisateurs d'être viables économiquement. Malika Seguino du syndicat Prodis dénonce l'arbitraire de ces décisions.
Nous sommes étonnés parce que d'autres festivals cet été ont pu demander des dérogations pour des rassemblements inférieurs à 5000 et ne les ont pas obtenus. Là, je constate effectivement qu'il y a des plexiglas, mais c'est quand même 4000 personnes par lot en fait, et sans distanciation physique, avec port du masque obligatoire. C'est justement ce que nous, au niveau du spectacle vivant, nous proposons, nous préconisons dans notre protocole sanitaire envoyé au gouvernement et approuvé par le ministère de la Culture. Et à ce jour, nous n'avons pas eu les autorisations.
Au Puy du Fou, une nouvelle dérogation préfectorale pourrait permettre la tenue des spectacles le week-end prochain.
Merci à vous, Pauline Joss. Le gouvernement dit redouter une pollution des plages de l'île de la Réunion, voisine de l'île Maurice, où un vraquier japonais échoué s'est brisé. Le navire s'est échoué le 25 25 juillet sur une barrière de corail, environ 1000 tonnes de pétrole se sont déversées dans la mer. Quelques mots de la météo pour la France métropolitaine. Dans l'après-midi, le temps tournera à l'orage sur le centre-est, orage encore de la Charente à la frontière belge, des éclaircies dans le sud-ouest. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue à la technique Adèle Caglard.